tous les premiers mardis de chaque mois.
Les Rendez-vous de la Peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de la Peste, l'émission de l'économie sociale et solidaire qui met en avant les activités et les acteurs et actrices de l'ESS en Mayenne. Je m'appelle Jeanne Rosier et je suis chargée d'accompagnement et de développement au sein de l'association APES 53. Nous sommes aujourd'hui avec Ylvie Decam, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes réunis pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. En effet, nous vivons dans une société genrée, de façon binaire, avec des hommes et des femmes. Cette binarité est source de discrimination qui se retrouve entre autres dans le milieu professionnel. On observe ainsi des écarts de salaire au détriment des femmes, un manque de reconnaissance, des temps partiels subis, une possibilité d'évolution limitée, un impact de la parentalité différent, de l'autocensure, des difficultés à se projeter dans certains domaines ou emplois dits masculins, des croyances limitantes ou encore une plus faible présence dans les instances de décision. Au niveau national, les femmes représentent un tiers seulement des créations et reprises d'entreprises, c'est-à-dire que seulement un entrepreneur sur trois est une femme. Cette proportion est encore plus faible dans certains domaines, comme les nouvelles technologies, où plus de 90% des entrepreneurs sont des hommes. Dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, on observe malheureusement la même tendance, un fort salariat féminin et des dirigeants masculins. Pour en parler, je vais inviter Marie Tessier de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à se joindre à nous. Bonjour Marie, tu travailles pour l'Observatoire de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est, s'il te plaît ?
Alors, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire a pour mission de promouvoir et développer l'ESS sur le territoire ligérien. Et du coup, il porte l'observatoire de l'ESS qui permet en fait de pouvoir analyser et puis objectiver les données qu'on a sur l'économie sociale et solidaire sur la région pour pouvoir montrer le poids ou en tout cas ce que représente l'économie sociale et solidaire sur nos territoires, dans les différents secteurs d'activité, etc.
Quelles sont les grandes tendances que vous observez à propos des inégalités de genre dans l'ESS en Pays de la Loire ?
Alors en fait, les Pays de la Loire sont pas une région spécifique en termes d'inégalité de genre. On est à peu près dans la moyenne nationale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que environ 7 salariés sur 10 est une femme dans l'économie sociale et solidaire en Pays de la Loire. Donc on est comme le reste de la France. Et que c'est donc un mode d'entreprendre non mixte, puisque la part des femmes n'est pas comprise entre 40 et 60%. Donc on n'est pas un mode d'entreprendre mixte aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire.
Ce que tu veux dire donc, c'est qu'il y a un salariat féminin qui est important et après des dirigeants qui sont surtout masculins, est-ce que c'est ça ?
Exactement, les femmes salariées sont très nombreuses, donc près de 70% comme je le disais, et dans certains statuts juridiques on dépasse même les 70%, notamment dans les associations, les mutuelles et les fondations. Alors qu'à contrario, dans les coopératives, les femmes ne représentent que 45% des salariés. Donc c'est pas tout à... l'ESS n'est pas non plus homogène en termes d'inégalité, mais effectivement, quand on regarde les fonctions qu'occupent les femmes et les hommes, on va retrouver les femmes plutôt sur du salariat classique, et on va pour le coup retrouver plus d'hommes sur des fonctions cadres et des fonctions de dirigeants, voire même de bénévoles dirigeants dans les conseils d'administration et les bureaux.
J'ai vu que l'association ESS France travaille actuellement à un matrimoine de l'ESS. En quoi ça consiste, un matrimoine ?
Le projet de matrimoine, effectivement, porté par ESS France, vise à retrouver en fait la mémoire des femmes qui ont contribué à la connaissance, à la reconnaissance et au développement de l'ESS, plus de valoriser les parcours des femmes qui font l'ESS aujourd'hui. Donc il y a deux volets à ce projet-là. Un ouvrage historique qui devrait logiquement sortir en fin d'année, qui est porté par Scarlett Winson, qui est l'initiatrice de ce projet Global Matrimoine et qui est l'autrice de cet ouvrage. Et puis sur le site de ESS France, on retrouve déjà de nombreux portraits numériques de femmes qui font l'ESS. Et voilà, qui permettent aussi de valoriser les parcours de femmes que parfois on a un peu tendance à oublier ou en tout cas à rendre moins visibles que les parcours de certains hommes.
Et plus localement, le Conseil régional des Pays de la Loire, en lien avec d'autres acteurs, dont la CRES, Pays de la Loire justement, a signé un plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes. Et plus concrètement, de quoi il s'agit et quels sont les objectifs ?
Oui, effectivement, la CRES est signataire du PAREF 2022-2024, donc qui est le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes, porté conjointement par l'État, la région et BPI France. Et donc, en fait, en signant le PAREF, la CRES s'engage avec beaucoup d'autres structures, beaucoup d'autres réseaux, à promouvoir et développer l'entrepreneuriat des femmes. C'est en fait une déclinaison régionale d'un accord cadre national sur l'entrepreneuriat féminin et qui vise à mettre en commun un certain nombre d'actions de tous les acteurs réunis autour de ce plan d'action. Et puis aussi de travailler collectivement avec des groupes de travail sur certains sujets, notamment par exemple comment casser les barrières pour que les femmes entreprennent davantage, comment favoriser aussi la transmission d'entreprise à des femmes entrepreneuses, etc. Donc l'objectif, c'est à la fois de faire de l'interconnaissance entre tous ces réseaux qui œuvrent à l'entrepreneuriat féminin et puis de développer des actions concrètes en région. Et donc la CRES, auprès d'autres réseaux, permet de représenter aussi les femmes qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire.
Merci Marie Tessier d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir parlé de l'action de la CRES des Pays de la Loire sur cette thématique. Et voilà, je rappelle que vous travaillez depuis longtemps sur la lutte contre le sexisme et que vous publiez régulièrement des documents qui permettent de suivre l'évolution des chiffres dans le département. Merci.
Merci à vous.
Ce matrimoine de l'ESS est un projet important parce que la représentation, ça compte. Que ce soit dans le langage oral ou écrit, notamment avec l'écriture inclusive, qui, je le rappelle, ne se limite pas au point médian, mais inclut entre autres la féminisation des mots et les doublons, par exemple, chers auditeurs et auditrices, mais aussi dans les médias, les livres pour enfants, les manuels scolaires, les noms de rue ou encore sur Internet et même les applications d'intelligence artificielle. La représentation est importante car plusieurs études scientifiques le prouvent. Notre cerveau est un déducteur précoce et pour lui, le masculin générique n'est pas neutre. Une phrase au masculin et il se forge une image mentale masculine. Par exemple, en 2007, Marcus Brauer et Michael Landry ont mené une enquête et ont constaté que lorsqu'ils demandaient à des personnes dans la rue de nommer tous les candidats de droite et de gauche que vous verriez au poste de Premier ministre ou encore vos héros ou chanteurs préférés, le pourcentage de femmes nommées oscillait entre 15 et 25%. En ajoutant la forme féminine à la question, tous les candidats et candidates de droite ou gauche que vous verriez au poste de Premier ministre ou alors vos héros et héroïnes préférés, ce chiffre pouvait monter jusqu'à 40%. Pour remédier à ce manque de représentativité et parce que son parcours est incroyablement riche et diversifié, nous avons aujourd'hui invité Ylvie Decam, qui entreprend de nombreux projets en Mayenne. Rebonsoir Ylvie.
Bonsoir.
Tu as donc créé et géré un fournil bio pendant près de 10 ans. Tu as contribué à la création d'une école à la ferme, ouverte à Bazougé en novembre 2021. Tu as vécu et exercé dans différents pays, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège, également en France. Tu as travaillé auprès de divers publics et tu exerces maintenant en tant qu'art thérapeute par le biais de la coopérative d'activité et d'emploi Codémarrage. Tu y proposes notamment des ateliers artistiques et des ateliers team building. On est bon jusque là ?
Oui, et juste le fournil, c'est pas pendant 10 ans, il a été créé en 2018.
D'accord.
Il est toujours en activité, mais du coup j'ai donné la main à d'autres qui continuent.
Très
d'ailleurs,
bien.
D'ailleurs, une équipe féminine.
Super. Dans son parcours, qu'est-ce qui t'a donné cette énergie et cette envie de lancer tous ces projets ?
Oui, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours aimé créer. J'ai toujours voulu aussi créer à mon image où je me suis jamais interdit de rêver et je me rappelle depuis toute petite c'était assez comme ça dans mon éducation et dans ma famille qu'on aimait bien rêver, on aimait bien imaginer des choses, on aimait bien se projeter et j'ai jamais senti qu'il y avait des contraintes dans l'imagination, en tout cas qu'il y avait toujours le droit d'imaginer, et ça c'est, je pense, c'est déjà la base de s'autoriser à rêver. Et après, c'est y croire. Je pense que c'est les deux premières grandes étapes pour arriver à créer des choses, quoi. Donc ça, c'était quelque chose de fort en moi. Et, Et après, c'est aussi des façons de voir peut-être le monde et de voir, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai envie de, comment je veux que le monde soit autour de moi. Et du coup, si les choses ne me conviennent pas, j'arrive pas bien à me mettre en lien avec les gens qui sont toujours dans la protestation ou dans la, comment dire, dans en train de se plaindre de tout. Et je suis plutôt quelqu'un qui a envie, bah en fait, tu proposes quoi toi, plutôt que de te plaindre. Et voilà, je suis plutôt dans cette dynamique-là, en fait. Bah, si quelque chose ne me va pas, bah, plutôt que de me plaindre et de protester, bah, créer ce qui, moi, me plaît. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv, on va dire, en quelque sorte.
Est-ce que tu penses, du coup, que ton éducation, je crois que tu es née de parents néerlandais, tu as aussi vécu dans plusieurs pays, est-ce que tu penses que toutes ces influences-là, ça joue justement sur cette façon de voir les choses et cette confiance dans le fait que tu peux créer et lancer les projets qui te plaisent ?
Ouais, je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a un peu ce côté d'oser rêver, déjà, et de ne pas être toujours restreint à dire « Ah non, c'est pas possible, ah non, mais il n'y a pas toujours ce côté négatif de se restreindre, quoi. » Donc ça, déjà, oui, et cette grande liberté aussi. Donc moi, j'ai été éduquée, enfin, j'ai grandi sur des fermes. Et toujours aussi avec énormément d'espace pour jouer, d'être créatif. Et je pense que ça, c'est déjà la base, en fait, pour être libre dans sa tête, quoi. D'être libre dans son corps, pour ensuite être libre dans sa tête. Et ouais, et du coup, de pas être restreint quelque part dans sa façon d'être, mais en fait, d'arriver à être au plus proche de soi-même et du coup aussi de vraiment faire un chemin de recherche vers qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de mener dans le monde, en fait. C'est ça, c'est toujours été quelque chose de très important pour moi. Et du coup, je pense que quand je suis proche de ça, bah, c'est assez facile, en fait, de se dire, bah, en fait, j'ai envie d'aller vers ça. Enfin, les choses deviennent assez logiques. Ouais.
Et c'est pour ça que tu as contribué à la création de cette école à la ferme, justement, pour pouvoir offrir aux enfants un cadre dans lequel ils peuvent passer du temps à l'extérieur et puis être en connexion peut-être avec leur propre rêve.
Oui, oui. Et là, encore une fois, c'est vraiment... c'est un peu bête, hein, mais c'est... Moi, j'ai fait l'éducation en France, on va dire scolaire, et j'ai jamais... Ça m'a pas... on va dire, ça m'a pas vraiment épanouie, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé que c'était un peu trop... Tout était lié au résultat final, aux chiffres, très intellectuel. En plus, j'ai choisi une section scientifique, donc je suis peut-être pas fait le meilleur choix, mais... Mais voilà, et ça prouve bien aussi que le système est fait comme ça. À partir du moment où on est bon, hop, on nous pousse vers une direction, mais on ne va pas chercher qu'est-ce qui nous fait vivre à l'intérieur vraiment. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est quand même mal fait. Et bref, du coup, je m'étais toujours dit, bon, moi, je m'en vais de la France, je vais voir ailleurs. Donc, j'étais partie surtout vers la Norvège et je pensais faire ma vie là-bas. Et en fait, bon, la vie a fait que je suis revenue. Et je suis revenue et j'étais enceinte. Donc, bon, donc il fallait bien que mon enfant aille quelque part à l'école. Et je ne me voyais absolument pas faire l'école à la maison. Parce que c'est quand même une grande responsabilité et je pense que c'est important que l'enfant soit aussi entouré de plein d'autres mondes et pas que de ses parents. Bref, et donc ce choix-là a fait que pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je cherche autre chose et donc je me suis dit bon, on va essayer de créer une école. Et donc là encore, je ne me suis pas restreinte de me dire mais non, c'est impossible, c'est beaucoup trop compliqué. Et je me rappelle encore très bien une des premières réunions publiques que j'avais organisées. Donc il y avait beaucoup d'instits qui étaient présents et qui ne venaient pas forcément parce qu'ils avaient envie de participer à ce projet, mais beaucoup plus pour venir voir de quoi il était question. Et il y avait beaucoup ce regard très très critique et beaucoup m'avaient dit « Non mais tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas créer une école comme ça. Enfin, » Et moi, ça m'avait justement, à l'inverse, donné beaucoup de force et d'énergie en me disant « Bon, bah, vous croyez que ce n'est pas possible, je vais vous montrer que ça va l'être. » Voilà, donc il y a aussi peut-être un petit peu quelque chose en moi qui peut-être un peu de la révolte, je ne sais pas, qui a envie d'aller au bout des choses, quoi, et de montrer que les choses sont possibles, en fait. Quand on veut, on peut, bon, évidemment, c'est un peu facile à dire, hein, mais il y a quelque part dans ça où j'y crois vraiment, que quand on veut vraiment et quand on y croit vraiment, eh ben, on se donne les moyens d'y arriver, quoi.
Et une histoire de persévérance, en fait, aussi dans le fait de... réussir à lancer les projets et les concrétiser après. C'est ça. Ouais. C'est vrai que quand on regarde ton parcours, tu as quand même imaginé, créé des projets dans des domaines très différents. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, tu veux nous raconter un petit peu plus le lancement du Fournil ?
Ouais, là, c'était plus dans un objectif. Enfin, un objectif, non, c'est pas le bon mot. C'était... le lancement du Fournil, c'est venu à la base de l'idée pour la ferme. J'avais envie qu'elle devienne, enfin on avait, hein, c'est pas comme moi, hein, mais les gens de la ferme, on avait envie que ça devienne une ferme avec plusieurs activités. Il y avait du fromage qui se faisait déjà depuis plus de 10 ans et du coup de pouvoir diversifier et d'être plusieurs sur la ferme aussi dans l'esprit collectif. Donc nous, avec mon mari, on est arrivés. Et donc mes parents étaient déjà sur place sur la ferme et on ne s'imaginait pas du tout reprendre la ferme de façon traditionnelle. Bon, bah, les parents partent en retraite et nous on reprend. Donc ce n'était pas du tout notre objectif. Et justement, ça nous... à l'inverse, on n'avait vraiment pas du tout envie de ça, quoi. Et nous, on avait vraiment envie de quelque chose de collectif. Et donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi dans tous les projets que je fais. Je cherche toujours un lien collectif et de réseau et je suis convaincue qu'on ne peut pas mener à bien des choses seules, quoi. Et donc là, dans la ferme, c'était pareil. Comment créer la ferme de plus en plus attractive pour que des gens aient envie d'y travailler avec nous, pour qu'il y ait des gens qui ont envie de vivre cette aventure avec nous et de ne pas être finalement sur une ferme isolée qui fasse qu'un produit. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet du Fournil. Et donc il y avait déjà, après, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient déjà en place, donc j'ai pas eu à faire tout le chemin tout seul. Et... mais du coup, j'ai un peu pris en main le projet. Enfin, c'est un peu moi qui a pris... je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Je vais mener à bien ce projet qui ait lieu, qui puisse se faire. Donc, c'était vraiment très, très passionnant. J'ai été... pendant un an, donc, j'ai été accompagnée avec la CIAP, la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et du coup, j'ai pu faire des stages auprès de plein de paysans boulangers en Mayenne et d'apprendre, en fait, parce que je ne savais pas faire du pain, d'apprendre à faire du pain. Et de mettre en lien entre la théorie, la pratique, qu'est-ce qui faisait sens sur le lieu même, et avec les gens, avec, voilà, de vraiment... et ça, c'est, je pense que ça, c'est vraiment des choses que j'aime faire, en fait, aussi, de créer des ponts entre la théorie, entre des idéaux, et entre qu'est-ce qui est réaliste, et qu'est-ce qui fait sens sur place aussi, et de vraiment s'ancrer dans un territoire, et de pas juste prendre une idée qui est complètement abstraite ou un idéal, et puis de le forcer dans un territoire, mais beaucoup plus de le faire vivre à partir des gens du territoire. Et ça, par exemple, pour le Fournil, pour moi, c'était très important d'être très en lien avec les paysans boulangers. On a d'ailleurs créé un groupe d'échange à la suite de mon installation. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de pouvoir échanger des pratiques, de se mettre en lien, quoi. Et sur l'école, c'est exactement la même chose. Donc j'ai été, on va dire, initiative, mais très vite, je me suis entourée. J'ai absolument pas mené ça toute seule. On était un groupe, enfin, on est toujours un groupe, hein. Évidemment, on est une association qui s'appelle La Jardinière. Et encore aujourd'hui, c'est ensemble qu'on construit cette école, quoi. Mm. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, que moi je trouve important aussi. C'est d'un côté, donc je suis un peu celle qui est mise en avant du fait d'avoir pris l'initiative, mais comment ne pas rester au centre non plus. Et du coup, pour moi, c'était important aussi de laisser ma place de présidente assez rapidement et de pouvoir aussi... pour que les gens ne croient pas que ça dépend que de moi, en fait. Et c'est un peu la même chose qui s'est passée avec le Fournil, où finalement j'ai décidé, donc l'année dernière, donc c'était pas forcément prévu, mais j'ai décidé finalement de transmettre de l'activité du Fournil. Et donc c'était aussi... Et finalement, ça m'a... Parce que j'ai fait ce choix-là pour pouvoir me consacrer pleinement à l'art-thérapie. Et parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais pas du tout d'espace pour pouvoir pratiquer mon vrai métier, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que c'était pas forcément difficile pour moi de transmettre, parce que il y avait toujours quelque part en moi que cet outil, le Fournil, je l'avais pas créé que pour moi, mais je l'étais vraiment un espace un lieu de travail qui doit être agréable, qui doit être accueillant, et qu'en fait n'importe qui ait envie d'y travailler, quoi. Et donc du coup, c'était pas, je m'identifiais pas comme le Fournil d'Ylvie, absolument pas, mais beaucoup plus le Fournil de la ferme, en fait.
Ok, t'es très riche. Merci. Avant que tu nous en dises plus sur ton activité d'art thérapeute, je propose qu'on fasse une première pause musicale. Est-ce que tu veux bien nous dire le nom du morceau que tu as choisi, s'il te plaît ?
In This Heart. In this...
Les rendez-vous de la PES, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous sommes de retour dans l'émission Les rendez-vous de la PES sur l'autre radio et nous sommes en compagnie d'Ylvie Decam. Ylvie, tu es donc art-thérapeute, tu t'es lancée officiellement l'année dernière et tu es accompagnée par Codémarrage, la coopérative d'activité et d'emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton activité ?
Donc l'art-thérapie, donc moi je travaille avec le dessin, la peinture, le modelage, parce que l'art-thérapie c'est très vaste, on peut aussi travailler avec la danse, le théâtre, enfin bref, la musique aussi, on appelle ça plutôt musicothérapeute pourtant. Et donc moi, donc je travaille avec le dessin, peinture et modelage, et donc je travaille avec n'importe quel public à partir de 7 ans, l'âge primaire plutôt. Et ça peut être sur n'importe quelle thématique, la personne elle a besoin de se remettre en équilibre, que ce soit psychique ou en termes de vitalité, enfin, ça peut être des problèmes de sommeil, d'anxiété, de dépression, enfin bref, on peut nommer plein de choses, une crise de vie, je sais pas, un divorce, enfin bref, un problème dans sa biographie. Et du coup, qui sont abordés de façon artistique, en fait. Donc c'est une thérapie qui est non-verbale, donc le principe, c'est pas de résoudre par les mots, on va dire ça comme ça, mais c'est l'activité artistique qui va aider vers un mieux-être, en fait. Donc, bon, ça peut paraître un peu abstrait quand on ne connaît pas. Donc, il y a un peu une première phase qui est plutôt dans l'expression. Ça, souvent, c'est assez connu. Les gens, ils pensent qu'on fait juste de la peinture, du dessin, et puis ça s'arrête là. Donc, c'est vrai, dans une première phase où le but, c'est plutôt d'aller comprendre un peu qu'est-ce qui joue. Souvent, je dis, en fait, le travail artistique que la personne fait, c'est vraiment la continuité de l'âme en fait, de la personne. Donc il y a vraiment des choses qui sont inconscientes, qui sont mises sur le papier, auxquelles on n'a pas forcément de mots, on n'arrive pas forcément à savoir d'où ça vient. Et en fait, en tant qu'art thérapeute, du coup, je suis formée à pouvoir un peu, entre guillemets, pouvoir lire plus qu'est-ce qui se joue. Donc à partir de ces premières séances de plus d'expression libre, donc ça va donner un peu une image globale de la personne, en plus de son questionnement pourquoi elle vient. Et du coup, à partir de là, ça va plutôt être des exercices d'impression. Donc en fait, moi je vais donner, un peu comme on pourrait donner un médicament, et ben là en fait on va donner des activités artistiques. Donc la personne, je lui propose de faire des activités. Donc c'est moi qui choisis la matière, les couleurs, l'exercice lui-même, qui du coup peut faire du bien à cette personne-là. Donc pour l'aider dans sa thématique, dans son mieux-être. Et donc en fait, il y a un peu aussi cette idée que tout ce qu'on arrive à faire en dehors de soi, eh bien, à l'intérieur de soi, il y a aussi quelque chose qui se met en mouvement. Donc voilà, donc ça peut être, je nomme n'importe quoi, des choses de centrage. Ben en fait, quand on fait ce travail-là en dehors de soi, ben à l'intérieur de soi aussi, il y a des choses qui bougent. Donc c'est, en gros, c'est ça. Donc évidemment, c'est assez complexe, mais voilà, c'est ça, ça prend en compte un peu ça, quoi. Mmh.
Sur ton site internet, il y avait une petite phrase qui résumait, je crois... L'art nous connecte à notre être profond, nous met en mouvement, nous centre, nous calme, nous régénère et nous harmonise là où nous en avons besoin. Mmh. Ça résume bien le cœur de ton métier.
Oui, ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent. C'est qu'en fait, l'art lui-même a des vertus thérapeutiques, en fait. Et bon, je pense qu'on le sait plus pour la musique. On a de plus en plus d'études qui le prouvent. Après, pour l'art plastique, on a aussi des études qui le prouvent, mais bon, moins mises en avant peut-être. Mais voilà, l'art lui-même a vraiment des vertus thérapeutiques et c'est du coup de savoir les utiliser au bon moment pour la bonne personne, pour que ça puisse l'aider dans son processus, en fait. Hein. Donc c'est... À la base, ça a été plutôt... donc c'est plutôt dans les années 1900, début 1900, que ça a été... développé au début et à la base c'était vraiment pour accompagner un complément dans le soin des médecins en fait, dans un trajet thérapeutique, donc quelqu'un qui aurait, je dis n'importe quoi, une dépression, à côté d'avoir des antidépressifs, ferait aussi une activité artistique et de vraiment travailler en pluridisciplinaire comme ça pour pouvoir aider la personne à aller vers un mieux-être et donc petit à petit aussi pouvoir arrêter les médicaments. Donc évidemment ça se fait dans un contexte médical. Donc, malheureusement en France c'est pas reconnu et donc du coup n'est pas non plus accepté comme métier dans le médical. Et du coup, c'est un peu plus difficile en France de trouver, trouver sa façon de travailler. Donc voilà, je cherche encore comment je vais faire. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler ensemble plutôt dans le secteur aussi médical avec des médecins.
Est-ce que ça se passe différemment dans d'autres pays ? Tu dis que là qu'en France, l'art thérapie n'est pas reconnue vraiment dans le champ médical et tu as d'autres exemples de... pays où au contraire ça l'est et il y a vraiment des ponts qui se font entre ces pratiques-là.
Ah oui, bien sûr. Donc moi j'ai fait mes études aux Pays-Bas. Là-bas du coup c'est reconnu et donc mes études sont assez complètes aussi dans le sens où c'est 4 ans à temps plein. Et donc ça vraiment, ça part de cette base-là. Donc là-bas aux Pays-Bas c'est reconnu et du coup c'est compris dans tous les, ça fait partie des thérapies qui peuvent être mises en place quand il y a besoin, une personne qui aurait besoin de ça, ils savent faire appel en fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup de centres de soins qui ont des arts thérapeutes. Bon après ça se fait aussi de plus en plus en France, heureusement, mais malheureusement c'est pas reconnu. Donc c'est pas, on n'est pas vraiment au même niveau, mais faut espérer que ça va venir. Et après aux Pays-Bas c'est aussi remboursé par les mutuelles, donc bon voilà, on n'est pas encore là non plus en France mais voilà, on est vraiment sur un autre système aussi de soins, donc c'est difficile de comparer. C'est vrai qu'en France on est quand même sur quelque chose de très il y a une structure qui est quand même très qui est difficile à bouger, quoi. C'est comme ça, la médecine elle a fait certains choix et ne rembourse très peu de choses. Et aussi, on voit bien avec l'homéopathie aussi, ce qui a été enlevé. Enfin, il y a vraiment des choix politiques qui ont été faits et c'est très difficile d'aller à l'encontre de ça aujourd'hui en France. Et je pense que... c'est pareil dans l'éducation. Hein, quand on est un petit peu dans le milieu alternatif, C'est dur en France. Je pense que voilà, il y a un peu un geste de militantisme qui existe en France autour de ça, je pense, et qui est une bonne chose. Mais c'est dur, quoi. Enfin, on n'a pas des retombées dans les politiques, enfin, difficilement.
C'est un peu à contre-courant, en fait.
Ouais, c'est à contre-courant, oui. Et en plus, malheureusement, sur certains domaines, on a l'impression que ça avance, mais sur d'autres, on a l'impression que ça recule, en fait. C'est ça qui est un peu triste à voir, des fois. Mais j'ai l'impression qu'aussi, les gens, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'attendre à ce que tout soit remboursé. Ou en fait, bah, on le voit bien avec tous les systèmes de soins. Ça ne va pas toujours de mieux en mieux non plus. Bon, voilà, je ne vais pas avoir un discours pessimiste, ce n'est pas le but, mais... voilà, je pense que les gens se rendent compte qu'il faut aussi prendre en main leur santé et qu'il y a une conscience qui se fait autour de qu'est-ce qui est possible et qu'il n'y a pas que la médecine traditionnelle, mais qu'en fait, il faut ouvrir à plein de choses. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout là pour aller à l'encontre de la médecine traditionnelle, mais moi, je suis convaincue qu'il faut une complémentarité, en fait. Il faut vraiment travailler ensemble, main dans la main, et pas être l'un contre l'autre. Ça ne marche pas, en fait.
Et tu as eu la chance donc de vivre et d'étudier dans plusieurs pays, donc notamment avec ta formation aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu observes comme différence dans l'éducation entre les différents pays et qu'est-ce qui peut-être peut manquer chez nous? Qu'est-ce qui peut être important dans d'autres systèmes éducatifs pour le développement personnel, par exemple?
Bah, je pense surtout à la Norvège là, avec ça, parce que je sais qu'en Norvège, c'est toujours très mis en avant... le côté où quand tu prends des initiatives, c'est mis en avant, c'est positif, c'est quelque chose de bien. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, il y a un peu un tabou autour de ça. Faudrait pas faire trop de bruit, faudrait plutôt se mettre dans un coin et faire comme tout le monde. Bon, j'exagère peut-être un peu. Non, mais dans l'éducation, je l'ai beaucoup ressenti. Dans l'éducation, j'ai beaucoup ressenti qu'il ne fallait pas trop faire de travers. Il fallait plutôt faire ce que le prof dit et apprendre la leçon. Et que la leçon, c'est ce que le prof a dit, ce qui est écrit dans le livre. Et il n'y a pas trop d'ouverture vers d'autres choses. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti, cette ouverture. Et justement, ça m'a fait du mal de ressentir qu'il n'y avait pas ce regard vers qui je suis, mais qu'est-ce que je produis, en fait, quelle est ma prestation. Il y a beaucoup ce regard de prestation, et aussi très, très hiérarchique. Moi, j'ai fait une année en Norvège quand j'avais 15 ans, 15-16 ans. Et ça aussi, ça m'a ouvert vraiment l'esprit aussi de voir comment l'éducation au lycée n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. C'est bon, après, il y a aussi des extrêmes, des fois où on se demandait si le prof, il avait encore quelque chose à dire. Donc bon, je me dis, bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut non plus. Mais entre l'un et l'autre, où finalement l'élève, il est juste là pour apprendre sa leçon, et où est-ce qu'il y a encore sa liberté de penser, où est-ce qu'il y a encore sa liberté de faire, d'être qui il est, d'aller découvrir qui il est, en fait. Parce que finalement, est-ce qu'on lui donne l'espace pour aller découvrir ça? Parce que tout ce qu'on lui propose, principalement au lycée, mais finalement aussi beaucoup au collège, c'est des matières intellectuelles, tout est programmé. On entend à longueur de journée que c'est que pour le bac qu'on l'apprend. Enfin, à un moment donné, si on n'est pas déjà dépressif, on le devient. Moi, c'est pas une évidence, quoi. Et donc, à quoi bon être là si finalement c'est que pour un fichu examen, et à la fin de ça, il faudra faire un autre examen. Enfin, et en fait, il n'y a plus de sens dans la vie. Enfin, et à cet âge-là, moi, je pense qu'il faut absolument cultiver quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus... Il faut beaucoup plus se mettre en lien avec qui on est, en fait. Mmh. Et ça, sachant qu'il n'y a aucune activité artistique, matière créative qui sont mises en avant, on n'est que dans l'intellect, quoi. Et en plus, c'est un intellect qui est fermé. On n'est même pas sur un intellect de création, d'ouverture. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti, mais je pense qu'il y a une petite part de vérité quand même.
Et est-ce que vous, adolescente ou jeune adulte, vous avez eu des modèles, des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont donné confiance justement dans l'envie de lancer des projets qui vous seraient propres, de suivre votre propre chemin ?
Oui, je pense déjà le fait que donc j'avais 5 ans quand mes parents ont déménagé des Pays-Bas à la France. Je pense déjà ça a dû jouer, du fait de les voir partir de rien et de monter une ferme. Donc à la base, c'était une ferme conventionnelle qu'ils ont complètement changée en bio. Enfin, et puis en fait, il y avait tout qui était contre eux, dans le sens où c'était pas du tout quelque chose d'était dans l'air du temps, de faire du bio. Et donc ils ont dû aussi, quelque part, se battre un peu. Mais se battre de façon positive, parce qu'en fait, ils y croyaient. Et donc, voilà. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours... Je pense que inconsciemment, j'ai dû ressentir ça aussi, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire leur chemin et y aller, quoi. Et ouais, et par exemple, je me rappelle aussi que ma mère organisait des stages de peinture avec un ami peintre des Pays-Bas. Donc, il venait comme ça. Pendant 3 étés, il est venu avec ses élèves des Pays-Bas. Et donc, ça aussi, je pense, ça m'a beaucoup... apporter des choses, de voir qu'en fait, ah, mais c'est trop bien, on peut créer des choses comme ça, on peut faire venir des gens, faire des stages. Et du coup, moi, à l'âge de 10 ans, je participais à ces stages de peinture. Et c'était des ambiances super, tout un groupe de gens mangeait ensemble les repas. Enfin, il y avait vraiment un côté un peu collectif, comme un camp pour adultes. Ouais, je pense que ça, c'est des choses qui m'ont forgé quelque part. Et aussi, donc, cette ouverture, il y avait toujours... Notre ferme était toujours ouverte à plein de gens. Et on a tout de suite ouvert un camping à la ferme. Et donc, d'avoir toujours vu des gens passer, ouais, je pense que quelque part, ça... Une envie de créer du lien.
Et est-ce que tu penses que dans ta carrière ou ton parcours de vie, le fait d'être identifiée comme une femme a pu être un frein par moment ? Ou alors plutôt une qualité ou un avantage à d'autres ?
Moi, personnellement, j'ai jamais ressenti que d'être une femme était un frein. Moi, je le sentais jamais en moi. Mais peut-être que des fois, effectivement, je le ressentais, que des gens pouvaient me dire que peut-être que je n'étais pas capable ou que je n'avais pas la force. Mais à l'inverse, moi, j'avais envie de leur dire « Mais qu'est-ce que t'en sais ?» je pense que ça réveillait plutôt des choses en moi, me dire mais enfin, c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Enfin, il y a quelque chose du fait que pour moi, c'est tellement important d'être vue en tant que personne et pas... Enfin, du coup, quand je parle de personne, je parle de ce qui est à l'intérieur de nous, pas en tant que ce qui nous habille, notre corps. Et... pour moi, ça, c'est vraiment ça que je cherche chez l'autre, en fait. Je ne cherche pas à voir est-ce que c'est un homme, c'est une femme, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir. En fait, je m'en fiche de son habit, en fait, dans quoi il habite. Et c'est son être profond que je veux rencontrer. Et c'est aussi ça qui était ma grande frustration dans l'éducation française. C'est que j'avais l'impression que personne ne voyait mon être profond. On ne voyait que ce que je mettais, quoi, ce qu'il y avait autour de moi. Et je pense que quand on vit avec ça, quand on est soi-même convaincu qu'il y a quelque chose de profond qui est là, et c'est ça qu'on fait parler, et c'est pas juste le fait que je sois une femme que je fais parler quelque chose de plus grand. Et donc moi, ça m'a toujours donné envie d'aller de l'avant et d'aller vers ça, quoi. Et dans l'autre aussi, c'est rare que je me retrouve à penser de façon binaire, à me dire « Ah, c'est parce que c'est un homme ou c'est parce que c'est une femme ?» Je traverse ça, ouais. Quelque part.
Très bien. C'est vrai que c'est super si on peut ne pas être traversé par ces questionnements-là. Et après, de fait, voilà, les chiffres prouvent qu'il y a des différences au niveau de la position des femmes dans la société, la confiance en soi, la prise de risque, au niveau du caractère, etc. Et ça se ressent, comme je disais au début, sur le milieu professionnel et notamment l'envie d'entreprendre. Et pour répondre à ça, il y a plusieurs outils ou techniques qui existent. Par exemple, en 2023, il y a le réseau des entrepreneurs citoyens qui a publié une étude sur l'entrepreneuriat des femmes dans les territoires fragiles. Et cette étude montre que les actions menées par ces femmes qui créent ou reprennent des entreprises constituent nettement un levier de dynamisme local, contribuent aussi à une meilleure inclusion sociale et en même temps revitalisent l'économie de ces territoires. Et cette étude souligne l'importance du soutien aux entreprises pendant la phase cruciale qu'est le développement de projet par un accompagnement personnalisé. Et l'étude met aussi en avant l'importance des réseaux dont tu parlais tout à l'heure, ce qui permet de partager son expérience avec d'autres personnes qui vivent sensiblement la même chose et voilà, de partager pour pouvoir aller plus loin ou être plus efficace, plus rapide par exemple. Et aujourd'hui, pour accompagner tout ça, il existe notamment des aides spécifiques. Par exemple, la garantie égalité femmes de France Active, qui facilite l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d'un projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Il existe aussi en France des appels à projets dédiés, par exemple les audacieuses ou les ambitieuses en Île-de-France. Il existe plusieurs réseaux d'entraide ou alors des réseaux business pour que voilà, les femmes entrepreneurs puissent partager entre elles. Il existe certains concours comme Entrepreneurs de talent, qui est organisé en Pays de la Loire depuis 2010 et qui met en avant les candidatures féminines. Et localement, on peut aussi se tourner vers les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, donc le CIDFF. Ces centres, qui sont présents dans toute la France, ont pour objectif de favoriser l'autonomie des femmes, notamment par l'insertion professionnelle. Et il existe d'ailleurs une antenne à Laval. Ylvie, est-ce que tu as déjà entendu parler de certaines de ces initiatives ou est-ce que tu as profité d'aides dans ce genre ou d'outils de ce type-là ?
Oui, j'ai entendu ouais, de plusieurs initiatives et j'ai aussi fait, enfin, j'ai pas fait pas partie du réseau, mais j'ai déjà été à une réunion de Bouge ta boîte et je connais aussi Femmes de territoire qui sont localement très actifs. Donc c'est des bons réseaux. Après, c'est vrai que moi-même, c'est pas pour rien que j'avais envie de faire partie de Co-démarrage aussi. C'était par cette idée de faire du réseau. Et donc pour l'instant ça me convient, voilà, je peux pas être partout, on va dire ça comme ça, et donc pour l'instant j'ai pas besoin de plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment super d'avoir des réseaux comme ça, et il faut les encourager à continuer et participer quand on en a besoin, ouais, complètement.
On va maintenant faire une nouvelle pause musicale. Quel est le second morceau que tu as choisi, Ylvie?
Alors le nom c'est The Water.
Stars and the song in my heart is a tune for the journeyman's tale. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. I'm done with my dying. Now the land that I knew is a dream. The distance grows faint. So wide is my river, the horizon a sliver. The artist has run out of bed. Where the blue of the sea meets the sky, and the
when the big yellow sun leads me home. I'm everywhere now, the way is a vow to the wind of each breath by and by. The water sustains me without even trying. The water can't drown me under with my
Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous revoilà dans les rendez-vous de la peste qui traite de l'économie sociale et solidaire sur les ondes de l'autre radio. Nous sommes en compagnie d'Ylvie de Cam. Ylvie, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans et qu'est-ce que tu te souhaites?
Alors, 5 ou 10 ans, c'est une bonne question. Donc là, je viens de démarrer l'art thérapie, là, enfin de vraiment faire ça comme métier. Donc j'espère que dans 5 ou 10 ans, ça marchera.
On te le souhaite.
Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai fait mes études, donc il y a 10 ans, je m'étais toujours dit je pourrais pas faire ça à temps plein de l'art thérapie parce que c'est quand même très intense d'être dans la thérapie. D'aider l'autre avec ça et puis de même de pouvoir suivre tous ces patients, clients, enfin c'est pas faut pas mélanger tout, donc c'est assez intense. Et donc je me suis toujours dit qu'à côté de ça il faudrait que j'ai quelque chose où je puisse mettre les mains à la terre, enfin quelque chose de vraiment me ramener à quelque chose d'assez terrestre. Et donc je suis assez contente d'avoir à côté mon mari qui travaille sur une ferme, on habite sur la ferme, donc je me dis peut-être que un peu de ça à côté, ça me ferait du bien.
Trouver un équilibre.
Oui, voilà.
Est-ce que tu voudrais partager des conseils pour les personnes qui voudraient lancer leur projet, concrétiser leur projet?
Ouais. D'ailleurs, j'ai un petit livre qui est vraiment super, mais malheureusement, il est écrit que en hollandais. Mais justement, je suis en train de faire en sorte pour le rendre accessible, donc d'en faire un peu un atelier. Et donc, ça s'appelle la spirale de la création. Et en fait, il explique en 12 étapes, c'est quoi les étapes pour rendre possible de rêve à la réalité, quoi. Et donc, les trois premières, je pense, c'est les plus cruciales. C'est déjà, il faut avoir une idée, et un projet, un rêve, un souhait, et un vœu. C'est pas rien d'avoir ça. Déjà, il faut s'identifier, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, moi? Et donc, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, de quelque chose qui vient vraiment de moi. Et donc il prend un peu l'exemple que un pommier va pas faire des poires, un pommier fait des pommes en fait. Et donc c'est pareil avec nous, on va pas faire des choses qui nous appartiennent pas en fait. Il faut vraiment trouver qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui me touche moi, donc c'est qui vient vraiment du plus profond de moi. Et déjà si ça c'est correct, d'être au plus juste avec soi, déjà c'est une première étape. Donc voilà, et ensuite c'est de visualiser ce rêve, de vraiment pouvoir se mettre complètement dedans et de... avec tous ses sens, quoi, de s'imaginer vraiment dans les détails. Et plus on rend ça attractif, et plus on va t'attirer vers ça, en fait. Donc c'est un peu, des fois, on dit les sportifs à haut niveau, ils s'imaginent déjà être sur le podium, par exemple. Bah, c'est un peu la même chose. Il faut s'imaginer déjà là où on a envie d'être. Et dans le meilleur, enfin vraiment, de se l'imaginer au mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, voilà, comment on voudrait que ce soit. Et rien que dans ça, il ne faut pas se mettre des freins, parce que si on se met déjà des freins, comment on peut y arriver? Il faut y croire. Et donc ça, c'est l'étape 3. Il faut y croire. Et ce n'est pas si simple, parce qu'on a tendance à ne pas nous croire nous-mêmes, et du coup, on veut aller vers l'autre pour que l'autre nous encourage. Mais non, il faut déjà que nous, on y croit. Parce que si nous, on n'y croit pas, l'autre, il ne va pas pouvoir nous croire. Donc il y a vraiment... Il faut d'abord vraiment réussir à se croire soi-même, croire son projet, et croire, et d'être convaincu, vraiment convaincu. Et tout en étant 100% convaincu, aussi accepter qu'il se peut que ça n'ait pas lieu. parce que ben il y a des risques que ça n'ait pas lieu. Il y a toujours le risque de la vie, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les trois premières étapes. Et après, va venir, bah, il va falloir l'exprimer, il va falloir le mettre au monde. Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe en soi. Mais c'est crucial de bien les travailler, ces trois premières étapes, avant de le mettre au monde. Et quand, une fois qu'on est prêt à le mettre au monde, bah, là, on va petit à petit en parler aux autres. Et peut-être, tout d'abord, on va en parler peut-être que aux gens dans un cercle restreint, de gens qui nous soutiennent, qu'on sait qu'ils ne vont pas forcément nous vouloir du mal. Enfin, voilà, on va déjà petit à petit leur expliquer qu'est-ce qu'on a au fond du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et une fois qu'on se sent prêt, là, on peut commencer à en parler autour de nous, et voilà, en plus grand, quoi.
Merci pour ces conseils, j'ai hâte que cet ouvrage soit traduit. Et on va maintenant faire un petit jeu. Je vais te donner des mots et tu vas me dire rapidement ce que ça représente pour toi. Et pour toi, entreprendre, c'est ?
Voilà, c'est oser peut-être.
Pour toi, l'art, c'est ?
Aïe, l'art, c'est tout.
Pour toi, la nature, c'est ?
Ah oui, j'ai déjà dit tout, donc c'est pas possible. La nature. La nature, c'est grand.
Pour toi, un projet, c'est ?
Un projet. Ouais, quelque chose de profond, d'intime.
Pour toi, le territoire, c'est ?
Très important.
Mmh. Et un dernier, pour toi, le réseau, c'est ?
J'ai déjà dit très important. Le réseau, c'est primordial.
Primordial. Ok. Petit instant culture. Est-ce que tu as une recommandation de film, de livre à partager à nos auditeurs et auditrices ?
Bah oui, le livre que je disais tout à l'heure, mais malheureusement, ça ne va pas le faire. Là, tout de suite, comme ça. Je ne sais pas très bien, non. Il n'y a rien qui me vient. D'autres.
Moi, je voudrais partager. J'ai récemment découvert le podcast Elle en Mayenne, qui est créé par Amélie Boiteau depuis une petite année, qui met à l'honneur des femmes mayennaises inspirantes. C'est disponible en ligne et voilà, ça met en valeur plein de belles personnes. Est-ce que, Ylvie, tu as des actualités à partager, notamment par rapport à ton activité d'art thérapeute ou alors sur la ferme, par rapport à l'école ?
On organise un bal début juin, c'est le samedi 2 juin, un grand bal pour, là encore une fois, pour faire la fête, pour créer du lien, pour danser, et puis en même temps pour aussi récolter des fonds, parce que voilà, c'est une école hors contrat, donc on n'a pas de subvention d'État, et c'est pas facile financièrement de tenir le coup, parce qu'on a des salariés. Donc voilà, donc ça c'est un grand bal où j'invite tout le monde à venir danser. Et sinon, par rapport à mon activité à moi, donc aujourd'hui, grâce à Codémarrage, j'ai un cabinet partagé à Montsûr. Et donc voilà, ça vient d'ouvrir et donc j'accueille là-bas les consultations en individuel. Et donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail thérapieartistique@protonmail.com et thérapie artistique au singulier.
De mon côté, je vais aussi partager les actualités de l'APES. Et on a d'abord une réunion d'information Entreprendre autrement qui a lieu en ligne les lundis 22 avril de 12h30 à 13h30. Le lien pour s'inscrire est sur notre site internet apes53.org. On a aussi prochainement le début de notre session de pré-incubation MyID qui a vocation à accompagner des porteurs et porteuses de projets pour passer justement de l'idée au projet. Cette session commence le 3 avril et dure jusqu'à mi-juin. Et toutes les informations sont aussi sur notre site internet. On a également le 23 avril au matin une réunion de présentation de la plateforme Essor qui a notamment une section sur l'entrepreneuriat féminin et qui est donc une plateforme qui facilite pour les porteurs et porteuses de projets l'accès à toutes les informations sur l'accompagnement, l'entrepreneuriat, les financements, etc. C'est vraiment très développé. On a aussi une permanence avocat accessible aux structures adhérentes le vendredi 26 avril de 9h à midi et une permanence expert comptable également pour les adhérents à l'APES le 31 mai de 9h à 12h30. Donc toutes les informations sur notre site apes53.org. Ylvie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ton parcours.
Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Merci.
Et bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.